La noix de cola, c'est une base de vitamines. Alors là, on fait râper, on met macérer dans du vin pour boire. C'est bon pour l'anémie, la fatigue, ça remonte un peu. Et ça détruit des microbes pour ne pas en avoir. Et à ce pareil, les Africains les mangent comme ça. Mais nous, les Antillais, on fait râper pour mettre macérer dans du boisson, même pour les enfants. Là, c'est le bois bandé, pour les amoureux surtout.
Bonsoir et bienvenue dans l'émission Panafrica. On se retrouve un dimanche sur deux de 20h à 21h sur les ondes de Radio Campus Paris. Ce soir, une émission spéciale construite autour de l'interview du photographe toulousain Philippe Gioni qui, avec son travail Africa America, est parti à la rencontre des afro-descendants des pays andins. À l'heure où la chanteuse afro-péruvienne Susana Baca est nommée ministre de la Culture au Pérou, qu'en est-il de la connaissance et de la reconnaissance des afro-descendants dans les pays d'Amérique latine et plus particulièrement dans les pays andins ? Philippe Gioni, photographe toulousain voyageant depuis plus de 10 ans en Afrique de l'Ouest, est parti à la rencontre des afros de Bolivie, d'Équateur, du Chili, du Venezuela, du Pérou et de Colombie. Une approche humble et en profondeur, résultat de 6 voyages en 3 ans, de résidences artistiques, d'une multitude de rencontres, d'enregistrements audio et vidéo, Philippe Gioni nous livre des photos sobres et puissantes à retrouver dans son livre Africa America et à la Galerie Polka jusqu'au 15 janvier. La sélection de ce soir dans Panafrica sera donc consacrée aux musiques afro des pays de la cordillère des Andes, avec de la musique afro-colombienne, afro-péruvienne et afro-équatorienne. On commence avec la grande chanteuse Toto La Momposina dans un morceau illustrant bien le syncrétisme entre Andes et Afrique.
Ningún tambolero, carajo, ni amarrado. Respeta, respetame. Pupita, pupita, pupita. Dame un trago, dame un trago. Momento matando, papá. Uy, pidiendo, llévelo. Dame un trago, dame un trago. Momento matando, papá. Vente, matando. Thank you.
première fois, ce qui est nouveau pour moi, c'est les hommes et leur territoire. Tout est dans le « et », c'est-à-dire le tirailleur et les trois fleuves, tous ces portraits d'anciens combattants que je fais depuis plus de 10 ans, c'est souvent l'homme qui m'intéresse. L'homme, l'Africain, mais l'homme avec un grand H. Donc souvent, c'est hors contexte, sur un mur blanc, où le paysage est flou. Là, Africa America, c'est différent, c'est vraiment l'homme dans leur territoire. Ce sont les Andes, c'est une grande cordillère des Andes. C'est pas n'importe quel type de montagne, c'est des montagnes majestueuses, grandiloquentes. Et j'avais besoin, parce que c'est aussi leur vécu et leur revendication aujourd'hui, ils veulent encore une fois être reconnus, exister là où ils sont. Donc dans mon propos photographique, il était important de les montrer là où ils sont. Ce sont des portraits, ce sont des photos carrées, c'est souvent très frontal. Comme je dis souvent quand je fais une photographie, on se regarde. Voilà. Et c'est de cette conscience que naît des portraits, un moment de rencontre, sachant qu'un portrait, c'est toujours, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, un moment de tension, c'est-à-dire je ne suis pas là pour les rendre plus beaux, plus forts, plus belles qu'ils ne sont, mais je suis là pour les interroger et essayer de, comme ça de travailler. C'est assez chorégraphique, il y a beaucoup de mains qui se promènent dans mes images, j'aime bien les petits gestes que l'on a tous, ces petits moments d'intimité comme ça où on fait des petits gestes qui sont presque anodins, et qui, moi, en tant que photographe, m'intéresse. Un poignet qui se retourne, un petit doigt, une personne qui se mordit le petit doigt, des bras qui se coupent, etc., etc. Ça m'intéresse. Parce que ça questionne, du coup, leur être, leur identité, au-delà de leurs origines. Puisque, encore une fois, c'est pas illustrer une Afrique qui n'existe au monde plus. Le vaudou n'existe pas, vraiment, en tout cas, pas en tant que tel, dans tous ces pays andins. En cela, c'est très différent de ce qui se passe à Haïti, à Cuba, et bien sûr à Bahia, au Brésil, par exemple, ou à Recife. C'est très différent. Il y a des pratiques qu'on appelle la santeria, notamment sur la côte, au Venezuela, où on peut avoir des pratiques comme ça de don, de pastèque, de sandilla à la mer, des pratiques qu'on appelle orisha, ça existe. Donc ça, des offrandes au dieu de la mer, ça je l'ai vu au petit matin, 5h du matin, sur une plage déserte à Chua ou au Cumaré de la Costa ou à Bahia de Cata, ça oui, ça existe. Mais après, le vaudou tel qu'on peut l'imaginer, tel que des grands photographes l'ont immortalisé, par exemple Garcia Rodero en Haïti, ça n'existe pas là dans les Andes. En tout cas pas à ma connaissance, moi je ne l'ai pas vu en 3 ans de voyage. L'Inquisition... et surtout la colonisation espagnole était très forte, fluctuante en fonction des régions. Beaucoup de choses, beaucoup de choses se sont perdues. Et parfois, des choses sont en train de renaître. Notamment, je pense aux Afro-Chiliens, qui ne sont pas nombreux, mais ils sont bien encadrés par quelqu'un qui a 45 ans maintenant, qui s'appelle Christian Baez, qui est un jeune activiste, et qui, avec des moyens dérisoires et beaucoup de volonté, essaie de faire renaître des rythmes musicaux. Ça se passe à Arica, à Valle d'Asapa, il est un peu tout seul, mais la nuit, il organise de façon très simple des ateliers de pratique de tambour pour que les jeunes et les adolescents notamment retrouvent leur musicalité africaine qu'ils ont eu tendance à oublier, que leurs parents ont oublié pour mieux s'intégrer dans un Chili moderne. Sachant que l'État chilien, pour finir cet exemple, l'État chilien dit officiellement qu'il n'y a pas eu d'esclavage sur son sol national, et que l'histoire de l'esclavage ne les concerne pas, que les Afro-Chiliens n'existent pas. Si Africa America peut servir à ça, à faire prendre conscience également que les Afro-Chiliens, ils ne sont pas nombreux, mais ils existent, et ils veulent être reconnus en tant que minorité, et à ce titre avoir des droits. Voilà. Tous ces peuples afro-descendants, c'est un terme nouveau, qui a 8-15 ans à peu près, afro-descendants, c'est, voilà, ils ont les mêmes origines, l'Afrique, ils ont le même parcours, issus de l'esclavage espagnol, et ils ont, à des degrés divers, mais quasiment les mêmes revendications. Ils veulent être recensés, ils veulent exister, ils veulent être inscrits dans leur constitution nationale. On leur a promis, Chavez leur a promis, Morales leur a promis, les choses ne se font pas. Et pourtant, il y a ce mouvement de fond, un processus de fond, comme ça, identitaire, qui est en train d'émerger. Ça n'a rien à voir avec l'élection d'Obama aux États-Unis, c'est quelque chose qui les concerne, eux, dans leur parcours identitaire, après maintenant plus de 4 siècles d'histoire entre le continent originel, l'Afrique, et le continent où ils vivent, c'est-à-dire l'Amérique du Sud, et plus particulièrement les Andes.
Palomita, palomita, vuelve a ceux-là qui sont des musiciens, quoi.
Lui notamment, hein.
Raphaël Cassiani, ce vieux monsieur au torse dénudé. Voilà, lui, c'est San Basilio des Palenques, c'est au nord de la Colombie. Et il y a quelques années, Radio France a fait un album avec lui sur le label Okora. C'est la figure de proue depuis plusieurs décennies de cette musique comme ça, très, très africaine, puisque le dialecte palenquero, c'est très proche de certaines langues de la civilisation bantoue, c'est-à-dire de l'actuel Congo. Et lui, voilà, c'est quelqu'un de très, très important dans cette culture comme ça, à la fois afro-colombienne, mais africaine finalement. Sachant que San Basilio, c'est un petit îlot comme ça d'africanité perdu au nord de la Colombie. Non, lui, c'est un moment très fort, lui. Ce portrait comme ça, où il est en face de moi, et derrière, c'est la jungle. Derrière lui, c'est la jungle. Les taxis ne voulaient pas que j'aille dans ce village de San Basilio, qui est classé au patrimoine immatériel de l'UNESCO depuis quelques années. Et j'ai pu y aller quelques jours. Mais c'est bien, on a passé une journée ensemble, en fait.
Parce que toi, t'es vraiment... C'était un petit peu des repères, ces figures de l'africanité.
Je voulais absolument rencontrer et photographier un certain nombre des nouvelles élites. J'appelle ça des nouvelles élites qui représentent ces afro-descendants, qui sont porteurs maintenant, dans différents milieux, de ces revendications identitaires. Ils veulent savoir d'où ils viennent, ils veulent savoir pourquoi ils sont là, pourquoi on dit qu'ils sont par exemple afro-colombiens, afro-boliviens, sachant qu'officiellement ils n'existent pas, ils ne sont pas recensés, et voilà, comme quand un peuple n'est pas recensé, il a aucun droit. Donc eux, à travers ces élites, alors c'est une élite, ça peut être un musicien, ça peut être une mannequin, comme Eliana Quintero en Équateur, ça peut être un paysan, cette jeune femme aussi à gauche, là, Angelica, et photographie sur le toit de l'Alliance française à Barranquilla, au nord de l'Équateur, de la Colombie. Bon, elle, c'est l'égérie, la reine du carnaval de Barranquilla. Ici, je les photographie dans une autre position, c'est-à-dire avant tout une femme de couleur noire, mais une femme avant tout afro-colombienne. Donc voilà, donc j'ai dans tous ces pays, dans ces six pays, pendant trois ans, j'ai tenu à rencontrer un certain nombre de figures de proue comme ça, emblématiques dans les milieux culturels, dans les milieux économiques, politiques, associatifs, syndicalistes, qui sont des personnes qui émergent, il n'y en a pas beaucoup, et qui représentent toute cette culture afro-descendante.
Solo tan
En Équateur, en fait, les Afro-équatoriens sont principalement localisés dans deux zones géographiques où j'ai absolument voulu y aller. Il y en a une qui s'appelle El Chota, c'est une vallée au nord. El Chota, c'est le nom de la montagne, du village et de la rivière. Et là, il y a plusieurs dizaines de milliers d'Afro-équatoriens. Ils ont un rythme musical que eux-mêmes appellent la bomba, qui vient clairement aussi du Congo, de Congo, Angola, Cabinda, toute cette partie-là. C'est tout simplement là, donc c'est au son du rythme des percussions, on va dire pas du djembé parce que ça s'appelle pas comme ça, de la percussion tout simplement, frénétiquement. Et puis les jeunes filles souvent mettent une bouteille d'eau sur la tête et dansent au son des tambours, la bouteille ne doit pas tomber, etc. Ça, je l'ai vu plusieurs fois de façon presque ludique et spontanée. Et donc c'est la photographie que nous avons en face de nous, de cette petite fille qui a moins de 10 ans et qui, comme ça, comme un défi, met ses mains sur ses hanches et me dit: mais regarde, ici, moi je suis d'origine africaine et nous dansons la bomba. Elle met une bouteille d'eau sur sa tête. Là, ce jour-là, le jour de la photographie, il n'y a pas de tambour, il n'y a pas de musique, mais elle le fait comme ça. C'est une façon aussi pour elle d'affirmer pleinement sa couleur noire et son identité afro-équatorienne. Donc ça, c'est El Chota. Et plusieurs 300 km à peu près au nord d'El Chota, il y a une grande ville où j'ai pu aller également, je voulais absolument y aller, qui s'appelle Esmeralda. Et Esmeralda, la verte, on appelle, parce que c'est en pleine mangrove, c'est très beau. Et c'est une ville 100% afro-équatorienne, qui est un vrai bastion culturel. Là, j'ai été accueilli par le maire, qui s'appelle Ernesto Estupiñán, qui est une grande figure de proue, très, très en colère, très revendicative de la culture noire, qui m'a permis de rester une semaine. C'est là où j'ai rencontré Eliana Quintero, qui est une grande mannequin, égérie de la beauté afro-équatorienne et au-delà. Et là, il y a une tradition musicale que l'on appelle la marimba, c'est-à-dire une sorte de balafon, qui donc fait penser à la musique malienne. Et la marimba, ben voilà, c'est la base de toute la musicalité du nord de l'Équateur, dans les Andes toujours, voilà. Thank you.
Vous êtes toujours à l'écoute de Panafrica sur Radio Campus Paris 93.9. Ce soir, l'émission est consacrée à la musique afro-andine avec l'interview du photographe Philippe Dioni. On vient d'écouter un morceau de marimba, cette espèce de balafon d'Amérique latine. C'était Papa Roncon et sa rumba chonta, musique afro-équatorienne. On continue l'émission avec l'interview de Philippe Dioni qui expose jusqu'au 15 janvier à la Galerie Polka et qui sort un livre, Africa America. Il y aura juste après un morceau de la Cesaria Evora afro-colombienne et Elvina Maldonado avec le titre Porque me pega.
On ne raconte pas forcément la même chose. Et là, Africa America, ne serait-ce qu'à travers une exposition, un livre et un film, c'est raconter la même histoire mais de façon différente. Trois narrations différentes. Et le son participe à ça. Et puis aussi, le son, c'est garder un souvenir de l'instant passé, du moment partagé. Et ça, pour moi, c'est aussi important. Alors, j'accumule beaucoup de sons. C'est vrai que parfois, je ne m'en sers pas toujours, parce qu'après, ça demande beaucoup de temps et de savoir-faire. Mais pour moi, c'est spontané. Au moins pour tous ces travaux liés à la mémoire, aux identités humaines, pour moi, ça a du sens de raconter autrement. Et puis parfois, quand tout ça n'a plus d'importance, je réécoute des voix, des chants. Et par exemple, cette dame qui est en face de nous, qui est photographiée de dos, c'est une vieille dame de 80 ans. Elle, je l'ai photographiée à Cartagène, donc au nord de la Colombie. Elle vient de décéder il y a quelques mois. Et quand je l'ai photographiée, c'était un moment très très beau. Là, elle est dans un champ, près de sa maison, sa petite maison, encore une fois, au nord de Cartagène. Et elle est très connue parce qu'on l'appelait la Cesaria Evora de Colombie. Et elle était détentrice d'un rythme musical que l'on appelle, alors à vérifier, mais c'est boulerengue, je crois, un rythme très tropical, très africain, de cette région très particulière, très influencée par la Caraïbe, donc région du nord de la Colombie. Et cette dame décédée donc s'appelle Etelvina Maldonado, qui est décédée il y a quelque temps. Quand j'écoute sa voix, quand j'écoute ses chants a cappella, bon, bien sûr, je repense le voyage, je repense à elle. Elle a une chanson très, très belle qu'on va utiliser dans le prochain support où elle dit Que pena. En fait, une chanson qu'elle a écrite il y a plus de 30 ans. C'est une personne qui n'est pas sortie de son pays, quelque part. Hein. Dans cette chanson, elle raconte l'histoire d'un homme qui bat sa femme. Et la chanson, c'est la femme dit « Pourquoi tu me bats ?» Donc c'est à la fois très triste sur le fond, et elle en a fait un rythme comme ça répétitif et endiablé quelque part. Et c'est très beau, c'était un moment très fort, parce que voilà, elle me racontait ça dans sa petite maison, a cappella, et elle pleurait à la fin de la chanson, parce qu'en fait, elle parlait d'elle, quoi. Voilà, par exemple, des moments qui passent par le son, et peut-être que l'image, quand on la regarde comme ça, cette image carrée, noir et blanc, de cette femme posée en plein champ, peut-être que la photographie ne peut pas tout raconter.
Me pega,
ay, 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 ay.
¿Por qué me pega? mi ave, porque me pega.
De la África a Cartagena llegaron a trabajar y después enhorabuena comenzaron a luchar. Bullerengue aquí, bullerengue allá, cántalo feliz en la libertad para no ser más esclavos.
Ça, c'est le genre de photo que j'hésite à faire, j'ai du mal à faire.
La statue ?
Ouais.
Pourquoi ?
Parce que pour moi, cette photo de. C'est une, là aussi, on est à San Basilio de Palenque, à l'entrée du village, il y a cette statue d'un esclave qui s'appelle Banco Biojo. C'est le fondateur de ce village affranchi qu'on appelle Palenque, voilà. Et c'est un des rares endroits où, dans tous ces voyages andins, j'ai pu voir physiquement. Matérialiser l'esclavage en fait à travers cette statue, l'entrée du village, la petite place centrale, ce bras tendu, cette chaîne. Bon voilà, l'esclavage est facilement identifiable, il est là, il est physiquement dans le dur, quelque part physiquement représenté. Alors que toute cette histoire de l'esclavage et ce qui se passe aujourd'hui chez populations, ben, c'est un peu insaisissable parfois. Dans ce travail Africa-America, c'est pas illustrer une Afrique qui n'existe sûrement plus. C'est simplement montrer les aspects contemporains de populations qui ont les mêmes origines, les mêmes racines et qui veulent aujourd'hui s'affirmer pleinement là où elles sont. Il n'y a pas du tout de quête de retour sur le continent. Il n'y a aucune volonté de retourner au Libéria, au Mozambique, en Angola ou au Sénégal. Mais par contre, il y a une vraie volonté d'être représenté, d'être reconnu comme afro-colombien, afro-vénézuélien, afro-chilien, afro-équatorien, afro-péruvien. Voilà.
Moi, j'ai lu dans une de tes interviews que finalement, il n'y avait pas beaucoup de connexion entre les différentes communautés afro des pays. Du coup, ton travail, je trouve qu'il prend encore plus d'importance et de sens parce que c'est, finalement, tu es là et tu fais le lien entre toutes ces communautés.
La photographie, en tout cas la manière dont je l'appréhende, c'est créer du lien social, créer du lien tout court. Et donc il y a deux enjeux au moins dans ce travail au long cours. C'est d'une part que l'Afrique, le continent, prenne conscience qu'il a des diasporas noires de l'autre côté, dans les Andes, alors que les communautés noires au Brésil et dans les Caraïbes sont plutôt bien connues, mais on ne connaît pas celles des Andes. Et l'autre enjeu, c'est que toutes ces populations... Ça, c'est l'héritage colonial espagnol, pour le coup, qui a fait que toutes ces populations sont un peu enfermées dans leurs propres frontières imaginaires ou réelles. Imaginaires dans leur tête et réelles dans les frontières de chacun de ces pays. Les Afro-Colombiens ne connaissent pas les Afro-Boliviens, par exemple, qui eux-mêmes ignorent les Afro-Chiliens. Si ce travail comme ça, qui est transnational, toutes ces images sont mélangées, elles sont ensemble comme un peuple virtuel, on va dire, qui n'a pas encore totalement conscience de sa force et de ses racines. Si ce travail peut aider à aller au-delà de ses frontières étatiques, puisque la colonisation, quelle qu'elle soit, s'est toujours divisée pour mieux régner, moi je serais ravi que ce travail puisse comme ça engendrer des points communs, un discours. Cette exposition a déjà été présentée un tout petit peu en Colombie, mais en tout cas va repartir en 2012-2013. En tout cas, c'est mon souhait profond, repartir dans tous ces pays andins, à la fois l'exposition, mais aussi le livre. Et puis moi, je suis plutôt attaché d'ailleurs même, au-delà d'une exposition, au support du livre, parce qu'un livre, ça voyage sans le photographe. Moi, je ne suis plus là, ça ne me concerne plus quelque part. Donc j'ai mis cette idée que ce livre, qui est en trois langues, dont l'espagnol, leur langue quand même véhiculaire, principale, voyage dans tous ces pays andins.
Tu parlais de représentation de chacun, de représentation imaginaire. Est-ce que, ou fantasmé ou réel, est-ce que justement ça t'est arrivé au cours de ces voyages d'avoir envie de prendre en photo quelqu'un, de lui expliquer ta démarche et que la personne te dise non, mais non, pas dans le sens non, tu me prends pas en photo, non, dans le sens je ne suis pas ce que tu prends,
oui.
Tu me reconnais pas en tant qu'afro.
Oui. La photographie, c'est convaincre sans arrêt. Donc il m'est arrivé plusieurs fois d'aller vers des personnes de couleur noire dans ces pays andins et de les interroger sur leur africanité. Et parfois, c'est arrivé quelques fois, la réponse était non, mais moi je sais rien, ça, à la limite ça ne m'intéresse pas. Je me souviens notamment au nord du Chili, dans la ville d'Arica et la vallée d'Asapa, il y a quelques milliers d'afro-chiliens qui en sont venus presque à dire qu'ils ne sont pas d'origine africaine, alors que si, bien sûr, l'esclavage a existé au nord du Chili. Mais ils savent que pour peut-être s'intégrer dans ce pays qu'est le Chili, ils doivent ne pas parler de ça quelque part, ils doivent refuser presque leurs origines africaines. Donc il y en a certains qui me disaient « mais ça ne m'intéresse pas, je n'ai pas envie de parler de ça, c'est pas moi, je ne sais pas ». Et en même temps, moi je respecte ça, et à la limite ça m'intéresse. Un silence, c'est le début d'un témoignage, y compris pour un photographe, quelqu'un qui est en face de moi, qui est noir de couleur, qui porte cette africanité, qui me dit « je sais pas ». Moi, ça peut être l'occasion de faire un portrait. Ce travail, c'est ni un casting, c'est à la fois des rendez-vous privilégiés avec des gens que je voulais absolument rencontrer, et après le hasard du voyage, le hasard de la rencontre. C'est pour ça qu'il y a une très grande diversité de visages, de territoires, de propos, de lieux, de temporalités également. Mais j'aime bien finalement quand quelqu'un me dit « je ne sais pas », il y a un dialogue qui se met en place. L'autre écueil pour moi, comme ça fait quand même plus de 10 ans que je voyage en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, je reste très discret sur mes connaissances de l'Afrique puisque l'intérêt quand même du voyage, c'est eux, c'était pas moi. Donc c'était pas à moi de raconter tout ce que je sais, tout ce que j'ai vu. Pour eux, dans le témoignage, souvent, ils disent « Africa, Tierra Madre », c'est-à-dire la terre des origines. Et parfois, ils n'en savent pas beaucoup plus, c'est vrai. C'est comme ça.
Ah!
moi, je suis le photographe qui travaille, qui réfléchit beaucoup, qui mentalise beaucoup et qui photographie peu. Je travaille quand même entre guillemets à l'ancienne avec ce genre de, dans ce genre de propos, c'est-à-dire en film argentique avec plusieurs relais flex, donc c'est des formats carrés, c'est des films avec 12 vues, donc il y a une sorte d'économie du propos. Je pense beaucoup et je fais peu, j'appuie très très peu. Donc il m'arrive voilà, de faire un voyage de 2-3 mois et de revenir avec 80 films, ce qui est très très peu en termes de production. Ce qui fait que quand je fais le portrait de quelqu'un, ça peut se limiter à un film, c'est-à-dire 10 vues, 12 vues, et c'est tout. C'est rare quand je vais au-delà. Bon, c'est comme ça, c'est une façon de faire. Donc voilà, c'est une photographie documentaire, donc il n'y a pas de prétention à être exhaustif, ça n'a pas de sens. L'idée, c'est totalement rester partiel et partial quelque part. Ce n'est qu'un voyage, une proposition contemporaine sur une mémoire humaine qu'on a un petit peu oubliée, qui est en train d'émerger comme ça par elle-même. Moi, ce qui m'intéressait, c'est poser des visages sur des mémoires qui n'en ont pas. Et j'aime bien m'intéresser à des peuples qui se prennent en main et qui sont en pleine résurgence comme ça, culturelle. Alors ça passe par la musique, par l'affirmation politique, culturelle, économique, peu importe. Mais c'est ça qui m'intéresse en tant que photographe, être au constat de ça et l'interroger par des choix visuels originaux, voire audacieux. Voilà.
Vous êtes toujours à l'écoute de l'émission Panafrica, un dimanche sur deux sur les ondes de Radio Campus Paris de 20h à 21h. On a écouté juste avant El Mayoral, qui est un titre de musique afro-péruvienne. Le style, c'est le festejo qui est pratiqué sur la côte pacifique, dans la ville de Chincha et plus particulièrement dans le quartier El Carmen. On y joue le festejo avec comme percussion principale le cajon qui vient donc du Pérou. Tout de suite, c'est le chanteur afro-colombien Joe Arroyo avec ce titre Palenque. Palenque, c'est ce village emblématique fondé par des esclaves rebelles en 1736 et qui fut le premier village noir libre d'Amérique latine.
Africa America, bon, je pense que c'est fini pour moi, sauf qu'il y a quelques lieux comme ça où j'aimerais vraiment revenir, il y en a deux ou trois, pour aller plus loin, être encore plus en immersion, rester là, alors que là, je suis passé dans tellement de lieux, tellement de pays différents que c'est un long voyage où finalement on ne fait que passer, même si on reste parfois un mois et demi, mais il y a deux ou trois lieux comme ça où j'aimerais revenir parce que j'ai vraiment senti l'Afrique encore vivante, où j'ai été témoin d'engagement humain très fort. Je pense notamment à une association en banlieue de Quito. Ce sont 100 femmes afro-équatoriennes qui se sont associées depuis des années pour ne plus dépendre ni de l'État ni de leur mari. Et elles veulent être propriétaires de leur logement. Et sur le principe de la tontine, comme en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, elles cotisent depuis des années pour construire tout un quartier, leur logement en périphérie de Quito. Ça, c'est un travail que j'ai, enfin, une histoire que j'ai vue, que j'ai photographiée, qui est partie prenante d'Africa America, et que là, j'ai envie d'approfondir, puisque j'ai d'une part tous les contacts. Je suis attendu là-bas, on va dire, puisque parfois on m'appelle le blanc qui revient toujours dans certains pays d'Afrique de l'Ouest. Donc en Équateur, ils veulent que je revienne. Donc j'espère pouvoir en 2012, comme ça, avoir un ancrage, toujours dans le cas d'Africa America quelque part, mais avoir un ancrage plus localisé sur cette histoire de ces 100 femmes afro-équatoriennes qui se prennent en main. C'est ça qui me plaît. Elles sont très dignes, elles ont plein de caractère, plein de revendications, et surtout c'est concret. Il y a tout un quartier qui est en train d'émerger comme ça, où elles vont être propriétaires de leur maison. Et quand on sait les conditions de vie difficiles pour une femme afro-équatorienne qui sont tout en bas de l'échelle sociale, voilà, ça, ça a du sens. Donc ça m'intéresse. Le voyage continue.
Africa s'achève. J'espère que cette émission spéciale Afro-Ondine vous aura plu. Si vous êtes intéressé par le travail de ce photographe Philippe Diony, rendez-vous samedi prochain à la galerie Polka, 12 rue Saint-Gilles dans le 3e arrondissement de Paris. Il y aura une signature de son ouvrage Africa America qui rassemble textes et photos de ce beau voyage à travers les visages des Afro-descendants des pays andins. L'exposition est visible jusqu'au 15 janvier 2012. Voilà, vous retrouverez toutes les informations sur le site de la radio, radiocampusparis.org/podcast. Panafrica, ainsi que la playlist. Et puis, si vous voulez replonger dans l'univers afro-colombien, il y avait une spéciale début septembre sur la musique de Palenque. On se retrouve dans 15 jours, ça sera le 25 décembre. Venez fêter Noël avec moi. Je vous concocte une petite émission spéciale avec que des tubes de musique africaine, caribéenne, Amérique latine et océan Indien. Je vous souhaite une très belle soirée sur les ondes de Campus Paris.